Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Géraud et vous êtes actuellement sur le podcast de Dr Love, le service d'accompagnement pour célibataires que j'ai fondé. Dans ce podcast, je parle d'amour à l'heure des apps de dating, seul ou avec des experts, et avec une ambition, vous donner les clés pour vivre l'émotion ultime qu'est l'amour. En espérant que ça vous plaise et surtout que ça vous aide, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance, que dis-je, l'honneur de recevoir Vera Nikolsky. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Vera est haut fonctionnaire, normalienne, docteur en sciences politiques, mais aussi, et même surtout, j'ai envie de dire, maman de 3 petites filles. Et tant que j'y suis, c'est aussi une ancienne pratiquante d'arts martiaux à haut niveau. Bref, vous l'avez compris, ça blague pas du tout. Elle a récemment fait le tour des grands médias pour parler de son livre « Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et les vrais dangers qui la menacent ». Essai dont j'avais parlé dans une de mes newsletters et qui m'avait totalement passionné. Féminicène constitue, selon moi, une contribution majeure au débat sur le féminisme et l'émancipation des femmes, mais surtout, ce bouquin invite à une réflexion bien plus large qui consiste à penser rationnellement et non uniquement par un prisme idéologique, le féminisme, dans une société en plein bouleversement. Alors si je l'ai invité, c'est bien évidemment pour parler de ce livre et de ses thèses, mais aussi pour discuter de l'impact du féminisme et même du néo-féminisme sur le rapport homme-femme et donc sur l'amour et les couples hétérosexuels, sujet qui nous intéresse grandement ici. Bonjour Vera.
Bonjour Antoine.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie.
Bon, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Déjà parce que ce n'est pas fréquent qu'une personne qui est invitée sur tous les grands médias accepte de passer sur un petit podcast comme le mien, mais aussi car je me permets de supposer que vous êtes une femme très occupée. Je me trompe ?
C'est vrai, je suis très occupée, vous avez raison, vous avez nommé les raisons, vous les avez nommées vous-même. Un travail, trois enfants,
et en raison, plus un livre. Raison de plus pour vous remercier d'avoir d'être venue. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intro ? Est-ce que je n'ai pas dit de grosses bêtises ?
Non, pas du tout. C'est globalement correct, effectivement. Après, bref, le tour de tous les médias, peut-être pas. Certains médias m'ont invité, d'autres pas. Mais ça, c'est peut-être lié au contenu du livre, à sa tonalité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai eu un très bon accueil dans les médias conservateurs. Parce qu'ils étaient contents de la critique du néo-féminisme que je développe dans le livre.
Je regardais aussi, juste avant, d'ailleurs, une émission sur Sud Radio où vous avez débattu avec Michel Onfray. Passionnant, d'ailleurs.
Donc voilà, et puis ils étaient aussi, je pense, contents pour certains de l'espèce de justification que ça apporte à l'économie capitaliste, même si mon livre est beaucoup plus nuancé que ça, mais ils étaient contents de ça. Et puis il y a également les marxistes qui étaient très contents, c'est-à-dire de la vieille gauche traditionnelle. Et puis, certains médias de gauche liés probablement à ces mouvements féministes que je critique, ils étaient un petit peu moins heureux, peut-être. Voilà, okay. Donc j'ai été un petit peu moins sollicité de ce côté-là.
Ok, bon. Je ne sais pas où je me place, moi, sur le curseur, mais bon, on va dire nulle part. Ok, alors moi, j'aime toujours commencer avec une question très, très simple. Mais qui êtes-vous ? D'où venez-vous ?
J'ai un parcours d'universitaire à la base. J'ai passé 10 ans à l'université dans la recherche. J'étais sociologue du politique, politiste. J'ai une thèse en sciences politiques. Et je travaillais plutôt sur le militantisme politique. Voilà. Mais je ne suis pas restée dans ce monde-là parce que l'université aujourd'hui, ce n'est pas facile de s'insérer, d'avoir un poste fixe. Et puis, ce n'est pas forcément très satisfaisant. J'ai passé un concours de la fonction publique. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, haut fonctionnaire. Je travaille à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, je n'ai pas arrêté de réfléchir et de m'intéresser aux questions de société, dans l'ensemble, différentes questions de... soit auxquelles je m'étais déjà intéressée, soit d'autres et de nouvelles. Et donc, peu à peu, j'ai conçu le projet d'écrire ce livre sur l'émancipation des femmes, son histoire, son avenir aussi. Et voilà, mais c'est tout à fait indépendant de mon travail. Donc, il y a mon travail, il y a ce projet d'écriture que j'ai réalisé. Et effectivement, vous l'avez dit, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, 3 filles, 2 petites et une grande. Donc, voilà, c'est quelque chose qui occupe aussi beaucoup. Et c'est évidemment lié à... Le livre est lié un peu au fait que j'ai 3 filles, parce que mon livre parle de l'avenir de l'émancipation des femmes, de l'avenir du féminisme, et je sais que mes filles vont vivre dans un monde qui probablement ne ressemblera pas à celui dans lequel je vis moi. Et donc, je voulais me pencher sur cet avenir à partir d'une inquiétude, on va dire. Ce n'est
Je
pas un
me
avenir
perds.
qui inspire uniquement confiance.
Ok, on va pouvoir en parler. Je me permets aussi de déceler chez vous un léger accent. D'où venez... il est d'où?
Alors, je suis née en Union soviétique, où j'ai
Ok.
grandi jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, quand j'avais 13 ans, mes parents sont partis en France. C'était des scientifiques, des mathématiciens. Et voilà, mon père a été invité à travailler en France, donc on s'est tous établis ici. Et... j'ai ensuite fait toute ma scolarité en France, mes études. Voilà, je suis
C'est quel
native
pays
complètement
aujourd'hui?
française.
Vous étiez
C'est la
au...
Russie. C'est la
Là
Russie.
aussi,
Je vis à
ok.
Saint-Pétersbourg. Voilà.
Ok, trop bien. Alors, moi, comme je vous le disais, j'ai divisé l'entretien en deux parties. Une première durant laquelle on va parler de votre livre et des thèses qu'il avance, et une deuxième où on va essayer de parler d'un autre sujet qui intéresse grandement mes auditeurs, à savoir l'amour et les couples. Et je le précise, ce n'est pas quelque chose que vous abordez clairement dans votre bouquin, mais on va voir si on peut trouver des trucs.
Très bien.
Alors, la grande thèse de départ de votre essai, en tout cas moi ce que j'ai compris, c'est que les causes de la domination masculine sont d'abord matérielles. C'est la théorie, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez nommée comme ça, ou en tout cas la théorie matérialiste du féminisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, on a tendance aujourd'hui à considérer parmi les mouvements féministes que la domination masculine n'a que des origines idéologiques. La domination masculine est une idéologie, on va dire, qui a des implications dans la vie des hommes et des femmes, mais on a tendance à considérer que cette idéologie n'a elle-même que des causes idéologiques, c'est-à-dire qu'elle est idéologique d'emblée, qu'elle n'a aucune explication rationnelle, qu'elle est tout entière arbitraire et éventuellement liée à une nature peut-être viciée des hommes qui auraient tendance à imposer cette domination aux femmes. Ce qui, à mon avis, explique beaucoup de choses dans l'esprit du nouveau féminisme qui est très antagoniste, qui est très conflictuel, voilà, très porté sur les doléances et la dénonciation de cette nature supposée violente ou mauvaise des hommes. Alors, ce qui m'intéressait, moi, alors vous dites, est-ce que c'est moi qui le nomme ainsi? Alors, ça dépend. Le mot matérialisme est utilisé de mille manières dans différents écrits. Donc, certains, oui, seraient d'accord avec moi. D'autres utilisent ce mot d'une façon complètement différente. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, ce sont les éléments matériels, objectifs, liés au contexte, qui ont pu donner naissance à cette inégalité entre les hommes et les femmes qui caractérise peu ou prou toutes les sociétés qu'on a connues dans l'histoire jusqu'à la nôtre, jusqu'à une période très récente, on va dire 150 ans, 150, 100 ans, 150 ans. Et ces éléments matériels, quand je parle de toutes les sociétés, c'est vraiment toutes les sociétés depuis le début du genre humain, y compris les sociétés préhistoriques, les sociétés du paléolithique, du néolithique, etc. Donc quand on revient aux origines, pourquoi il faut d'abord revenir à ses origines, c'est parce que c'est un phénomène qui est vraiment universel. Quand vous avez un phénomène aussi universel, il faut essayer de lui trouver une cause elle-même convaincante, possiblement universelle et liée à quelque chose d'autre que cette idéologie même, parce que sinon on est dans la tautologie. Ce n'est pas très clair ce qui motive cette idéologie dans des sociétés par ailleurs très différentes. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de revenir à ce contexte très primitif des sociétés, premières sociétés humaines, où toute technologie fait défaut, le nombre des outils est très limité, la productivité du travail est très faible. Donc le corps des humains, des hommes et des femmes, est le premier élément matériel auquel ils ont affaire. Tout part du corps. Le corps est le premier outil qu'on utilise pour travailler, pour explorer l'environnement, pour avoir une action dessus. Et les corps des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Nous sommes une espèce sexuée. Les femmes engendrent dans leur corps, ce sont elles qui portent les enfants, qui les mettent au monde, qui les nourrissent aussi. Les hommes engendrent dans le corps d'autrui. Donc pour eux, les contraintes liées à la reproduction de l'espèce sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus légères. Elles pèsent essentiellement sur les femmes. Simone de Beauvoir dit que la femme est plus étroitement asservie à l'espèce. Asservie à l'espèce parce que c'est sur elle que repose la tâche de la reproduction, qui évidemment pèse très lourd dans des sociétés où l'accroissement de la population est très faible. Et pour survivre, les groupes ont besoin de produire un grand nombre d'enfants. Donc, à l'origine, il y a cette inégalité matérielle, vous l'avez dit, objective, on va dire neutre, parce que c'est un fait biologique qui ne dépend de personne, il ne dépend pas de la manière dont on le regarde, c'est un fait, et puis c'est tout. Et dans des sociétés technologiquement démunies, eh bien, ça détermine ça a un grand nombre de conséquences pour les hommes et les femmes, notamment pour les femmes, que cette dépendance, cette obligation de la reproduction limite beaucoup pour les autres activités. Comme les femmes enchaînent les grossesses, elles s'occupent des enfants parce qu'il n'y a qu'elles qui peuvent les nourrir dans des conditions où le lait artificiel en poudre n'existe pas, les frigos n'existent pas, les supermarchés non plus, etc., etc. Eh bien, ça limite leur mobilité, ça limite leur possibilité de s'adonner à un grand nombre d'activités d'exploration qui impliquent des déplacements longs ou une force physique importante. Et c'est quelque chose qui est le fait partout, quel que soit le point du globe, quelle que soit la société primitive en question. Toutes les sociétés font face à la même contrainte physique, à la même contrainte matérielle qui est liée à cette
Oui, donc là,
inégalité
il n'y a
des
pas
hommes
d'impact
reproductifs.
culturel, quoi. En fonction des zones de la planète,
Oui,
c'est.
à la base, il y a un élément matériel, mais il est vrai que l'être humain n'est pas un animal. Donc, sur ce facteur matériel premier, se greffe tout de suite la justification idéologique culturelle. On ne peut pas les dissocier réellement, on peut les dissocier conceptuellement, mais historiquement, évidemment, les choses se sont tout de suite produites ensemble. Donc, c'est quelque chose qui a donné très vite, aussi loin qu'on connaisse pour les textes, et très probablement même avant, donner lieu à des justifications, à des codifications, des normes. Puisque la femme reproduit l'espèce, eh bien, elle doit le faire. Donc, une femme bonne, c'est une femme qui fait des enfants, c'est une femme qui s'occupe du foyer, etc. Et c'est comme ça que les choses doivent être. Souvent, d'ailleurs, codifiées sous forme de religion ou de préceptes religieux. Toutes les religions, les grandes religions, ont théorisé cette place naturelle, normale de l'homme et de la femme. Mais effectivement, à la base, il y a quand même un élément rationnel qui empêche les sociétés d'adopter un autre modèle.
Et à un moment, donc à un moment, vous parlez d'ailleurs, vous dites la spécialisation sexuelle du travail est d'essence biologique, et que justement cette biologie est souvent tabou dans les mouvements féministes.
Voilà, c'est ce que je disais au départ. Le féminisme actuel, donc très antagoniste, qui attribue l'origine de la domination masculine, des inégalités entre les hommes et les femmes, uniquement aux facteurs moraux, aux facteurs, aux idées, en fait, à ce qu'on a dans nos têtes, à l'idéologie. Ce féminisme a tendance également, effectivement, à nier le rôle de la biologie, le poids de la biologie, en disant que ce ne sont que des préjugés, finalement. Donc, le fait que la biologie de la femme ait une quelconque conséquence sur son destin, sur ce qu'elle a à faire, etc. Ce n'est pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, l'argument biologique a été mobilisé beaucoup par des idéologues qui voulaient assigner les femmes à une place. Et puis, dans la société actuelle, celle dans laquelle nous évoluons, nous, aujourd'hui, le poids de cette biologie est très faible. On pourra y revenir par la suite. Donc, il est normal aujourd'hui de se concentrer surtout sur les aspects idéologiques. Cependant, si on se remet dans les conditions dans lesquelles l'humanité a vécu pendant le plus gros de son histoire, et notoirement au début, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. À la base, nous ne sommes que des animaux de seconde zone. C'est très peu à peu que la culture émerge. Et le corps, avant tout outil, joue un rôle fondamental dans cette division sexuelle du travail, qui est universelle, qui caractérise toutes les sociétés primitives, toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs, où les hommes monopolisent la chasse, l'activité de la chasse, qui implique de longs déplacements et de guerre. Donc des activités qui impliquent le maniement d'armes, d'outils meurtriers, ce qui évidemment leur donne un avantage supplémentaire sur le groupe des femmes. Et à partir de là, oui, c'est un processus de domination qui s'enclenche et qui donne des ramifications idéologiques de plus en plus complexes.
Super intéressant. Quand je vous écoute, là, parenthèse, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes un peu la Jancovici du féminisme, dans le sens où vous êtes très rationnel. Enfin, moi, quand j'écoute Jancovici, j'adore, personnellement. D'ailleurs, il avait parlé de vous sur LinkedIn, je me rappelle, il avait fait un post où il avait parlé de votre livre. Mais un côté très clinique, très rationnel, que je trouve hyper agréable.
Alors, merci pour le compliment, parce que je le prends comme un compliment. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Marc Jancovici. Je le cite dans mon livre plusieurs fois,
Oui, c'est
parce
vrai.
que,
En lien avec le dérèglement climatique dont on va parler juste après, justement.
oui, et puis aussi, avant le dérèglement climatique, en lien avec ce qui, au moment de la révolution industrielle, a pu changer cette donnée matérielle de base qui est liée à cette inégalité, à cette dissymétrie entre les corps. Parce que c'est précisément le recours massif à l'énergie, aux énergies fossiles d'abord, atomiques ensuite, qui, à partir de La révolution industrielle va complètement transformer l'environnement et donc changer complètement l'intérêt, le statut, l'importance de cette dissymétrie matérielle, physique entre les hommes et les femmes.
Vous faites le pont parfaitement avec ma prochaine question. Justement, quand on avance dans le livre, ensuite, vous dites que ce qui est réellement à l'origine de l'émancipation féminine, c'est la révolution industrielle avec ses progrès scientifiques et médicaux, plus finalement que les combats et luttes idéologiques féministes. Alors, vous ne dites pas qu'ils n'ont pas eu d'impact, hein. Vous faites juste un rapport hiérarchique. Enfin, en tout cas, vous dites que la révolution industrielle a eu, selon vous, plus d'impact. Est-ce que vous pouvez un peu détailler cette pensée.
Oui, les luttes, c'est ce qui est en général mis en avant. Les luttes, c'est la réponse qu'on a quand on demande aux féministes, aux spécialistes des sciences sociales et même aux quidam dans la rue. Si vous leur demandez qu'est-ce qui a entraîné, qu'est-ce qui a provoqué l'émancipation des femmes, grâce à quoi est-ce qu'elle est advenue, on va très certainement vous dire grâce aux combats qui ont été menés par les femmes, par les féministes. Ces combats ont eu lieu.
Dont
Effectivement,
Simone Veil, qu'on voit juste là.
absolument. Ces combats ont eu lieu, ils ont eu lieu probablement de tout temps. Il devait y avoir des femmes qui n'étaient pas pleinement satisfaites de la situation, qui essayaient d'augmenter leur marge d'autonomie. Mais à un moment donné, ces combats se mettent à porter des fruits. Ces combats n'ont jamais eu d'efficacité jusqu'à un certain moment où soudain ça commence à marcher et ça commence à marcher un peu partout en Occident. Dans différents pays, les femmes obtiennent de plus en plus de droits, de plus en plus de latitude, elles se mettent à travailler à l'extérieur et peu à peu, elles en arrivent à la situation qu'on connaît aujourd'hui où elles ont une égalité formelle totale avec les hommes et une égalité réelle très, très largement acquise. Et la question qui, moi, me laissait un peu sur ma faim, c'est pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, bien sûr, les combats ont contribué, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis que ces combats soient fructueux? C'est ça la question, en fait, à la base. Parce que dire que c'est les combats, oui, d'accord, oui, on s'est battu, mais pourquoi est-ce que ça a marché? Et en plus, comme j'essaie de le montrer dans le livre, ces combats des femmes n'ont jamais eu d'ampleur comparable, je ne sais pas, à des luttes sociales ou des luttes pour la libération nationale. C'était des combats de petite, de faible intensité, locaux, localisés. Il n'y a pas eu de grève générale des femmes, il n'y a pas eu de blocage militaire d'un pays, ni rien du tout. Et quand même, beaucoup de droits ont été progressivement accordés. Donc, qu'est-ce qui a changé? Pour moi, la condition de possibilité du succès de ces luttes, et donc de l'octroi de ces droits, c'est le changement de notre monde matériel. C'est
La
parce que notre environnement
mécanisation.
matériel. Oh, oui, parce que notre monde matériel change. Cette égalité devient possible. Et donc, à partir de ce moment, oui, les combats peuvent commencer à devenir fructueux. Et pourquoi tout change? Donc, moi, je date cette nouvelle ère propice au succès de l'émancipation des femmes, de l'entrée de l'humanité dans ce qu'on appelle l'anthropocène. D'où le titre du livre, Féminicène, qui est un néologisme formé
Que vous
sur.
avez inventé d'ailleurs, non?
Que j'ai inventé tout à fait sur le modèle de l'anthropocène, l'ère des hommes, avec un grand
Sen,
H.
c'est pour parler d'une époque, c'est ça? C'est un...
Voilà, sen, c'est le suffixe grec qui désigne l'âge, l'époque, l'ère géologique à la base, pléistocène, holocène. Voilà, et donc anthropocène, c'est un mot qui est aujourd'hui largement utilisé, non seulement par les géologues, mais aussi par les historiens, pour parler de cette époque, de cette période où l'humanité a commencé à avoir une action vraiment décuplée, beaucoup plus forte qu'avant sur l'environnement. Au point de laisser une empreinte géologique forte de notre activité. Et cette accentuation de l'empreinte que l'humanité laisse sur la Terre, elle est liée à la révolution industrielle, à l'entrée dans un monde où on utilise massivement l'énergie, bon marché, dirait Jean-Pierre Jancovici, donc disponible, ce qui nous permet d'avoir à notre service une armée de machines. Qu'il appelle les esclaves énergétiques, donc qui remplacent des tas de choses qui avant étaient faites par des hommes qui travaillaient de leurs mains, est aujourd'hui fait par des machines qui nous permettent d'avoir un niveau de richesse et de confort matériel incomparable avec celui de nos ancêtres. Et alors pourquoi est-ce que ça change tout pour les femmes? Eh bien ça se décline en plusieurs volets, on va dire. D'abord, il y a la dévaluation de la force physique qui a toujours joué en faveur des hommes pour le choix des activités, notamment dans la division sexuelle du travail. Et cette force, elle est dévaluée précisément par le recours massif à l'énergie qui ravale en fait la force de l'homme au niveau d'un epsilon, comme je le dis dans le livre, de quantité négligeable à côté de la force des machines. Des tas de métiers que les femmes ne pouvaient pas faire deviennent ouverts parce qu'il ne faut plus avoir forcément de gros bras pour les exercer. Mais ce n'est pas forcément l'argument principal. L'argument principal, c'est le temps qui se dégage et qui devient utilisable pour des activités à l'extérieur, pour du travail, pour des études, pour la réflexion aussi. Et pourquoi est-ce que ce phénomène historique dégage du temps pour les femmes? Eh bien, d'abord, il y a la technologisation croissante du quotidien. Avec l'industrialisation conduit à transformer notre quotidien, notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, la technologisation du foyer, l'équipement croissant avec des appareils, mais aussi en infrastructure. Il ne faut pas penser uniquement à Moulinex qui libère la femme, comme c'est la caricature qu'on parfois opposée, même si Moulinex a joué aussi. L'aspirateur a joué, le frigo a joué, le lave-vaisselle a joué, le lave-linge a joué, parce que toutes ces choses-là devaient avant être faites à la main. Et ça dégage du temps, mais surtout toute l'infrastructure qui entoure ce foyer, l'eau courante qui arrive dans les foyers. Il faut penser aux femmes qui vont chercher de l'eau à la rivière et qui la ramènent dans des seaux pour toutes tous les usages de la maisonnée. Il faut penser à l'externalisation de toute une série de tâches qui avant étaient faites à l'intérieur de la famille, par exemple la confection des vêtements. Avant, c'était la mère de famille qui confectionnait des vêtements pour elle, pour son mari, pour ses enfants. On les rapiéçait. On les raccommodait, on faisait pousser ses légumes dans le jardin parce que les populations étaient majoritairement rurales, on se nourrissait beaucoup en autosuffisance. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de ces travaux domestiques reposaient sur les femmes. Donc désormais, non seulement il y a des appareils, mais il y a aussi des usines ailleurs faites de métal qui fonctionnent grâce à l'énergie. N'est-ce pas, qui produisent ces appareils, mais qui produisent aussi des vêtements, qui produisent, on fait pousser des légumes qui sont moissonnés à la moissonneuse-batteuse, etc., etc. Donc, enfin, c'est pas les légumes qui sont moissonnés à la moissonneuse-batteuse, mais bon, vous m'avez compris, hein,
On a
j'ai fait un petit
compris.
raccourci. Donc, tout ça, toute cette formidable technologisation de notre monde dégage un temps utile sur la journée et sur la vie des femmes qu'elles peuvent consacrer à autre chose. L'autre facteur encore plus important, sur lequel je mets beaucoup l'accent dans le livre, c'est le progrès médical, qui est une sorte d'externalité positive du progrès technique et scientifique. Donc l'accumulation de ces progrès rejaillit sur la médecine. Et pourquoi ce progrès médical est important pour les femmes particulièrement? Il est important pour tous, bien sûr, mais pour les femmes tout particulièrement parce que c'est ce progrès médical qui permet de faire chuter la mortalité infantile. Et la mortalité infantile, c'est quelque chose qui a toujours constitué un verrou qui a empêché les femmes, même les plus émancipées dans leur tête, etc., même les plus riches, de faire peu d'enfants. Tant que les petits-enfants mouraient, et avant la révolution industrielle, avant la fin même du 19e siècle, environ un enfant sur deux ne vivait pas jusqu'à l'âge adulte. Donc, chaque fois qu'on faisait deux enfants, un enfant mourait en moyenne. Parfois beaucoup plus, si on tombait sur une mauvaise période avec des épidémies virulentes. Tant qu'un enfant sur deux mourait en bas âge, eh bien, aucune femme, ou disons pas les femmes en moyenne en tant que groupe, peut-être telle ou telle femme pouvait se le permettre, mais les femmes en général en tant que groupe ne pouvaient pas se permettre de n'avoir qu'un enfant. Elles ne pouvaient pas se permettre de n'avoir que deux enfants. Pour être raisonnablement sûre d'avoir une
Wow.
descendance, il fallait en faire quatre, cinq, six.
Okay.
Et oui, parce que là, si vous en
Oui.
faites six, en moyenne, vous en gardez trois, mais c'est en moyenne, peut-être pas. Et donc, voilà, ce que je dis dans le livre, je prends souvent cette image quand j'explique aussi cette thèse, c'est qu'à cette époque, la contraception, ou un slogan tel que un enfant si je veux, quand je veux, ne pouvait pas avoir de sens pour les femmes collectivement. Parce qu'à l'époque, le souci principal, c'était d'avoir suffisamment d'enfants vivants. Et pas de limiter forcément les naissances pour faire autre chose. Donc tout ça dégage du temps sur la vie des femmes, sur toute la durée de leur vie. Et en face, ce qui est intéressant, c'est qu'en face, il y a la dynamique du capitalisme industriel au même moment, qui lui réclame des bras. Donc il y a à la fois une disponibilité du côté des femmes, et il y a une demande économique du côté de la production, ce qui fait que c'est à ce moment-là que les femmes commencent à sortir du foyer pour être employées dans l'industrie naissante. C'est aussi le moment où on tire les paysans des campagnes, on emploie vraiment tout le monde. Donc les femmes profitent du même mouvement. Et c'est un peu un pied, si vous voulez, qu'elles mettent dans la porte, parce qu'elles ne vont pas forcément être très nombreuses à travailler dans l'industrie, elles vont surtout s'engouffrer ensuite dans les services, qui, eux, suivent le développement de l'industrie, mais n'empêche que c'est dans le même mouvement, amplifié par les deux guerres mondiales d'ailleurs, elles-mêmes très technologisées. Voilà, et puis le dernier, la dernière fusée, le dernier étage de la fusée, de ces éléments, on va dire consécutifs à la révolution industrielle, c'est la socialisation de toute une série de sécurité ou de tâches dans le courant du XXe siècle, surtout à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'enrichissement des sociétés occidentales fait que toute une série de choses sont socialisées. On va avoir la sécurité sociale qui va être étendue à tous. Donc ce progrès médical ne sera pas réservé à une élite, mais va se déverser sur l'ensemble des femmes, l'ensemble de la population. Et puis vous allez avoir les systèmes de retraite, qui sont également très importants parce que avant, on ne pouvait pas ne pas avoir d'enfants et ne pas avoir plusieurs enfants parce que quand on était vieux, il fallait que quelqu'un s'occupe de vous. Si l'État ne s'occupe pas de vous, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez aucune assurance vieillesse. Si vous n'êtes plus productif, c'est fini pour vous. Donc les gens étaient obligés d'en produire un certain nombre. À partir du moment où vous avez une retraite, évidemment, vous êtes beaucoup plus libre aussi dans ce choix, dans le choix de faire des enfants, ne pas faire des enfants, en faire un, en faire deux. Ça peut réellement devenir un choix. Donc, à partir de ce moment-là, la contraception, l'avortement obtiennent vraiment un sens social réel parce qu'ils peuvent vraiment être utiles. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces phénomènes qui transforment complètement notre environnement et qui a des conséquences immenses sur l'autonomie des femmes. Et par conséquent, oui, leur niveau d'égalité réelle avec les hommes.
Et le risque, donc, en tout cas votre crainte, c'est ce dont Jean Covici parle très souvent d'ailleurs, c'est quel avenir on peut imaginer avec la raréfaction, pardon, des énergies fossiles. Donc, comme vous dites que elles ont été à l'origine de l'émancipation des femmes, on peut aussi s'inquiéter sur le fait qu'elles soient à l'origine de la, enfin, d'une menace sur l'émancipation des femmes, bien plus que l'idéologie patriarcale dont on parle très souvent. Et alors, moi, je me permets de préciser que je trouve que c'était la partie la plus intéressante de votre livre, car en fait, c'est la toute première fois que j'ai lu ça, moi. Moi qui lis beaucoup de livres et de journaux. Sur ces sujets-là, c'était la toute première fois que je lisais une théorie comme ça, et c'est vrai que c'était assez. Je m'arrêtais à chaque phrase, quoi, pour réfléchir. Est-ce
Oui,
que
c'est vrai,
vous.
vous avez raison. C'est les premiers dangers qu'on évoque toujours quand on parle de la réversibilité potentielle des droits des femmes, ce sont les idéologies, ce sont les religions, ce sont les fanatismes, ce sont les extrêmes, les conservatismes.
Et vous qui avez beaucoup. Enfin. Qui avait à minima vécu dans deux pays, est-ce que c'est pas très français, ça, finalement, de mettre l'idéologie au centre de tout?
Alors oui, il y a en France une appétence pour les idées, pour les concepts, qui est très forte. Donc oui, il y a une espèce d'idéalisme dans la tradition réflexive française qui est très fort. Mais il me semble que cette tendance à exacerber le rôle des idées, à leur prêter une place peut-être disproportionnée, elle excède aujourd'hui le cas de la France. On voit un petit peu la même chose partout dans les pays occidentaux, aux États-Unis, peut-être
Ouais, aux
même
États-Unis, ouais.
jusqu'en France, c'est un peu parti de là, hein,
Mais
je pense,
qui
tous
ont repris
ces...
des idées françaises, d'ailleurs, hein,
Mais
semble-t-il, à ce
oui,
niveau-là.
effectivement, c'est un peu en boucle, ça tourne en boucle. Mais aujourd'hui, il y a un petit retour timide aux États-Unis aussi des réflexions un peu plus terre à terre, ce qui me semble bienvenu et auquel j'essaie de contribuer. Donc oui, en fait, la vision qu'on a de l'avenir, elle dépend de la manière dont on conçoit le présent et le passé. Si on pense que l'émancipation des femmes est tout entière due au combat des femmes, des féministes, etc. Et si on pense que les inégalités passées et même celles qui restent aujourd'hui sont dues avant tout aux facteurs idéologiques et éventuellement à la malignité des hommes ou à leur mauvaise éducation, aux mauvaises idées qu'ils ont dans la tête. Si on survalorise ces facteurs-là, si on leur donne la première place, alors il est logique évidemment de se dire que ce qui peut remettre en cause l'émancipation des femmes, ce sont des backlash idéologiques, ce sont les retours des idéologies conservatrices, ce sont ces facteurs eux-mêmes idéels. Alors, je ne cherche pas à nier ce phénomène. Il y a des retours de flamme des idéologies conservatrices, on peut l'observer. Les religions en particulier jouent un rôle très fort dans des mouvements de régression qu'on peut observer dans certains pays. Tout à fait. Mais effectivement, comme il me semble que l'évolution de notre environnement matériel, c'est vraiment la condition de possibilité fondamentale de l'égalité. D'accord? C'est pas mécanique, c'est pas parce qu'il y a évolution qu'il y aura forcément égalité, mais sans cette évolution, il n'y a pas d'égalité. Comme il me semble que c'est une condition fondamentale, forcément, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'avenir de ces facteurs matériels. C'est-à-dire que si on enlève
Et là, vous
ce
pensez à vos
confort
filles.
matériel, voilà, exactement, cet environnement matériel, si on essaye d'imaginer un monde dans lequel tout ce confort, tout cet environnement auquel on est tellement habitué qu'on ne le voit pas, eh bien, il fait défaut. Qu'est-ce qui va se passer avec les droits des femmes? Qu'est-ce qui va se passer avec la vie quotidienne des femmes? Et malheureusement, si on essaie de se projeter un peu dans cet avenir, vous avez parlé de la raréfaction des ressources, sur laquelle Jancovici a beaucoup travaillé, mais il y a aussi les effets de l'anthropocène lui-même, les effets de cette dynamique industrielle de notre économie elle-même, qui se voit dans l'altération de l'environnement, du climat, de la planète qu'ils produisent. Donc on a les deux en même temps, une crise des ressources et télescopée avec elle concomitante et l'amplifiant probablement, la crise climatique, la crise écologique qui arrive, parce que la crise climatique ne va pas avoir des conséquences uniquement pour le thermomètre, ça va bouleverser profondément les modes de production, la productivité agricole, les régions fertiles, les régions pas fertiles, et puis ça va aussi bouleverser l'organisation politique du monde, l'immigration. La stabilité de certains pays qui, avec les bouleversements économiques, risquent d'être fragilisés, etc., etc. Donc, effectivement, ces crises qui risquent de se télescoper et qui sont liées à une troisième crise qui, moi, m'inquiète beaucoup, qui est liée au domaine de la santé, qui est la crise de l'antibiorésistance, qui risque de nous priver de médicaments les plus efficaces au moment même où on en aura le plus besoin, parce qu'on fera face probablement à plus de maladies infectieuses. Eh bien, tout ça risque d'abord de conduire à le retour d'une forme ou d'une autre de la division sexuelle du travail.
Excusez-moi,
Parce que c'est
Vera,
ça.
parce que peut-être que j'ai. Soit je l'ai lu trop rapidement votre livre, mais est-ce que vous en parlez dans votre livre de ça, la crise des...
Ah oui,
votre.
absolument. Oui, j'en parle beaucoup. C'était d'ailleurs même probablement la première idée dont je suis partie.
Ok, alors c'est peut-être parce que j'ai une méconnaissance de ce secteur-là, mais est-ce que vous pouvez un peu développer? Donc ce que vous dites, c'est que les êtres humains sont de plus en plus résistants aux antibiotiques, qu'en même temps, il va y avoir de plus en plus de maladies infectieuses, on a pu le voir avec le Covid d'ailleurs. Et votre crainte, et d'ailleurs je crois que pas mal de personnes en parlent, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de pandémies de ce style, c'est ça?
Oui, qu'il y ait de plus en plus de pandémies de ce style, ça c'est certain, parce que les zoonoses sont en expansion, et elles sont aussi liées au fait qu'on surexploite des zones qui auparavant étaient des zones sauvages, donc on a des entrées en contact avec des espèces porteuses de virus transmissibles à l'homme. Mais il y a également une épidémie, entre guillemets, qui n'est pas une épidémie, mais un phénomène qui prend de plus en plus d'importance et dont on parle très peu. Sauf à l'OMS, qui le place quand même comme numéro un de ces problèmes, des problèmes de santé mondiale à l'avenir, c'est le problème de l'antibiorésistance, c'est-à-dire de résistance aux antibiotiques, qui ne traitent pas des maladies virales, mais des maladies bactériennes, et qui est lié, à la surutilisation des antibiotiques en médecine, mais aussi à la surutilisation des antibiotiques dans l'agriculture, toujours dans cette logique d'un monde productiviste qui produit toujours plus. En fait, on peut faire vraiment un parallèle. C'est très amusant, les antibiotiques, c'est vraiment comme une métaphore de l'anthropocène. C'est une espèce de remède miracle qu'on a trouvé au début du XXe siècle et grâce auquel on a d'ailleurs fait effondrer les derniers restes de mortalité infantile. La dernière plongée de la mortalité infantile date de la découverte des antibiotiques qui ont permis de triompher des maladies infantiles qui tuaient des bébés encore fréquemment au début du XXe siècle. Et donc, ce médicament miracle qui nous a permis d'allonger l'espérance de vie, de faire effondrer la mortalité infantile et finalement de ne presque plus s'apercevoir des maladies infectieuses, eh bien, ce remède, on en a abusé. On en a abusé et surabusé en médecine et aussi en agriculture parce que ça fait pousser les bêtes plus vite, ça donne plus de viande, ça nourrit plus de gens, ça résout les problèmes de la faim dans des pays du tiers-monde. C'est une évidence. Et ce que ça donne, c'est que ce médicament, ce remède, eh bien, il se retourne un peu contre nous, il devient de moins en moins efficaces et aujourd'hui, on risque bientôt d'entrer dans un monde où les antibiotiques ne fonctionneront plus. Et donc, ce qui est intéressant et disons inquiétant là-dedans, c'est que ces différentes crises se télescopent. Elles arrivent un peu dans la même temporalité. On va déboucher sur un monde qui risque d'être un monde à la fois plus pauvre, plus chaotique, parce qu'il y aura plus de lutte pour les ressources, donc plus violent, et à la fois dénué de toute une série de remèdes magiques dont on a totalement l'habitude, le pétrole abondant, l'énergie abondante, et puis ces médicaments miracles qui nous guérissaient de toute une série d'infections. Donc, sous l'effet de la conjugaison de tous ces phénomènes, la mortalité infantile risque malheureusement de réaugmenter à l'avenir, dans un monde plus pauvre, où l'immunité est plus faible, où on a moins à manger, où on a moins à se chauffer, où la violence est plus forte, où les maladies infectieuses sont plus fréquentes et où les antibiotiques sont moins efficaces. Et si la mortalité infantile augmente, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup pousser vers le retour d'une forme ou d'une autre de la division sexuelle du travail. Parce que c'est quelque chose qui limite de nouveau la disponibilité des femmes pour eh bien, d'autres choses dans la vie, des études longues, des carrières prenantes. Des métiers à l'égal des hommes, sans parler du fait que la raréfaction de l'énergie va certainement rendre beaucoup plus de métiers manuels, ce qui va là aussi désavantager des femmes et les pousser de nouveau vers un rôle plus domestique, un peu comme dans le passé. Alors après, je ne crois pas du tout à des retours du passé à l'identique, ça n'existe pas. Donc il n'y aura pas de retour au Moyen Âge, il n'y aura pas de retour à l'âge de pierre, ni rien de la sorte. Mais quelque chose d'hybride qui ne sera pas forcément aussi propice à l'égalité que le monde d'aujourd'hui. Et à mon avis, c'est un problème majeur auquel, oui, les femmes doivent s'intéresser, les courants féministes devraient s'intéresser, probablement en premier lieu. En tout cas, c'est la vision que j'en ai.
Justement, à un moment, j'aimerais citer un passage de votre livre que j'ai trouvé très intéressant. Vous dites, je cite, il est particulièrement étrange de constater que ces chercheurs et militants qui sont en général sensibles au thème de l'écologie et du changement climatique n'établissent aucun lien entre ces enjeux et la question féministe. Alors que notre monde est en train de changer et que des bouleversements plus globaux encore sont sur le point d'advenir, ils continuent à raisonner comme si de rien n'était. Toutes choses égales par ailleurs, se situant dans un univers parallèle où ces deux classes de phénomènes n'entreront jamais en collision. Pourtant, les changements, on l'a dit, risquent d'être massifs. Un enfant, si je veux, quand je veux, ne survivra pas à la hausse de la mortalité infantile. Trois enfants minimum pour toutes ne sera pas un slogan, mais la réalité statistique. La PMA pour toutes risque de devenir la PMA pour personne, ou presque. Sans parler des opérations de changement de sexe. Voilà les dangers qui devraient inquiéter les féministes et les pousser à explorer toutes les pistes possibles pour infléchir autant que faire se peut cette trajectoire. Et il y a un autre passage que j'aime particulièrement. Alors, je vais un peu le modifier, ce n'est pas une citation parfaite, je crois. J'ai dit à un moment dans ma newsletter, en somme, l'auteur propose que le féminisme contemporain incite davantage les femmes à devenir ingénieures et à construire des centrales nucléaires, plutôt qu'à se perdre dans l'ésotérisme et à lancer des sorts, pour reprendre les mots d'une néo-féministe connue, que je ne citerai pas.
Oui, non, ce n'est pas la fête. Effectivement, oui, vous avez raison. Moi, je trouve que c'est un paradoxe, un vrai paradoxe,
C'est vous qui avez raison.
d'observer des personnes qui se préoccupent beaucoup des droits des femmes et en même temps qui se préoccupent beaucoup de l'écologie et qui ne croisent pas les deux. Qui ne croisent pas les deux, même quand elles disent qu'elles veulent les croiser. Parce qu'il y a des courants, par exemple l'écoféminisme, même dans le nom, il ambitionne d'arrimer les deux, l'écologie, le féminisme. Mais il les arrime d'une manière complètement, enfin, à mon sens, arbitraire, irrationnelle. La femme a été exploitée, la nature est exploitée, donc la femme et la nature, c'est un peu pareil, ça a partie liée, même combat. Oui, alors, bon, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une toute autre articulation. C'est vraiment une articulation logique quand on réfléchit à ce qui va arriver aux femmes, en particulier, dans le cadre des transformations qui vont nous arriver en pleine face avec le changement climatique et la crise des ressources. Voilà, cette question-là, elle n'est jamais posée. Elle n'est jamais posée par les courants féministes. Et quand elle est posée en filigrane, comme dans l'écoféminisme, On imagine une espèce de mouvement émancipateur, de transition écologique dans la bonne humeur et l'allégresse, où voilà, ça sera l'occasion de, au contraire, s'émanciper encore plus et obtenir encore plus d'égalité dans un monde fraternel. Ça me semble peu probable. On a déjà du mal à mettre en place un monde fraternel dans des sociétés en croissance, où tout va bien et où les ressources augmentent. Alors, dans un monde en déflation, dans un monde en décroissance, en fait, en dépression, ça doit être encore plus difficile, beaucoup plus difficile parce que la pression pour le partage de ces ressources se fait plus forte. Et donc, la violence augmente automatiquement, les inégalités augmentent, la dureté des rapports sociaux devient beaucoup plus importante, même si ça se passe plus ou moins bien. Alors, si on risque un vrai effondrement, des bouleversements vraiment importants, là, c'est encore pire, bien entendu.
Donc si je lis entre les lignes finalement, parce que comme Jean Covici, vous êtes extrêmement intéressante à écouter, mais aussi il y a une, en tout cas, on pourrait sentir une forme de pessimisme sur l'avenir. Mais
Oui, de pessimisme, raison.
ce que je comprends, c'est qu'en tout cas vous croyez en la technologie.
Oui, je crois à la technologie sans être, comment dire, il y a des techno-optimistes qui vont vous expliquer que rien n'est un problème, qu'on va bien finir par trouver une solution scientifique à tous les problèmes qu'on rencontre. Par exemple, le réchauffement climatique, pas de problème, on va disperser du soufre dans l'atmosphère grâce à des projets de géo-ingénierie et tout va bien aller, vous allez voir. Ça va descendre tout seul, c'est une affaire de quelques années et on n'en parlera plus. Je ne partage pas ce degré de confiance dans la science. Je pense que la science, c'est oui, la science, la technologie sont des outils formidables d'action sur le monde et il faut en user, il faut les utiliser pour essayer de réduire autant que possible les effets de bord des bouleversements qui nous attendent. Mais il ne faut pas penser que leur succès est automatique. Il n'est pas garanti. Rien ne garantit qu'on trouvera des solutions à chaque problème. Très probablement, il y aura des dégradations qu'on ne pourra pas entièrement éviter. Donc, à mon avis, il faut se préparer à un monde qui va être un monde dégradé plus ou moins. Et tout est dans le degré, en fait. Tout est affaire de degré. Si le monde se dégrade beaucoup, eh bien là, les solutions que j'essaie de préconiser ne seront même pas opérantes parce que ça sera un problème d'échelle. Si ça se dégrade vraiment beaucoup, essayer de s'investir dans la science, comme je le préconise, ne servira pas à grand-chose. S'il se dégrade un peu, oui. Les choses dont je parle peuvent être très bénéfiques pour les femmes, à mon avis. Et je développe peut-être juste deux mots, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Effectivement, plutôt que de lancer des sorts ou de s'occuper de l'ésotérisme ou de se limiter à des réclamations de droits au présent, comme ont tendance à le faire les féministes actuelles, qui se concentrent vraiment sur le moment présent pour traquer les restes d'inégalités aujourd'hui, je pense qu'il serait important pour les femmes, notamment pour les femmes jeunes, des jeunes filles qui choisissent leur orientation, qui pensent à ce qu'elles vont faire demain, de s'investir dans des domaines qui vont être centraux dans cette transition, qui vont être centraux pour préserver et transformer de façon efficace cet environnement matériel dont je parle, qui me semble essentiel pour les femmes. Et cet environnement matériel, on sera obligé de le transformer. Parce que dans un monde où on n'a plus les mêmes sources d'énergie, dans un monde où on n'a plus non plus le même climat, eh bien toute une partie des dispositifs et des manières de faire des process, comme on dit, productifs, industriels, agricoles, ne vont plus marcher de la même façon. Donc ce monde doit être adapté. Et à mon avis, le féminisme devrait aussi consister, moi, je pense avant tout consister, mais on va dire aussi consister à travailler à la sauvegarde de ces éléments matériels qui sont essentiels. Juste pour prendre un exemple, oui, pour moi, une femme qui travaille sur de nouveaux antibiotiques, il y en a très peu qui sont développés. Une femme qui travaille sur les nouveaux antibiotiques, notamment qui marchent pour les maladies infantiles, est une femme profondément féministe. C'est une démarche totalement féministe dans le sens où elle permettra de sauver réellement, peut-être, ou en tout cas de mener un tout petit peu plus près vers le salut des générations de femmes, de filles d'aujourd'hui, de femmes de demain, qui ne seront peut-être pas obligées de faire 4 ou 5 enfants, mais pourront se contenter, comme nous aujourd'hui, d'en faire 1, 2, 3, selon notre désir, parce que ces enfants ne mourront pas.
Sachant que moi j'aide dans mon métier, donc j'aide des gens à passer du statut de célibataire à un couple, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. La majorité des hommes que j'accompagne sont des étudiants en ingénieur qui ont 28-29 ans, qui, en fait, parce qu'il n'y a aucune femme dans les écoles d'ingénieurs, Finalement, ont beaucoup de difficultés.
Bien sûr.
En, pour,
Pour trouver chaussures
à,
adaptées. Oui, bien
oui,
sûr.
et puis même pour savoir comment parler.
Tout à fait.
Et donc, bon, je fais ce parallèle parce que, mais oui, moi, je trouve ça hyper frais, ce que vous dites, hyper nouveau et super convaincant.
Parce que, effectivement, pour revenir à vos jeunes hommes et à vos jeunes femmes, ce que j'essaie de montrer
Qui
à la
nous
fin du
écoute?
livre, qui, bon, voilà, j'espère, pour revenir à eux, le fait est que, effectivement, le choix des études est très fortement genré, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui. Les hommes et les femmes ne s'engagent pas statistiquement dans les mêmes disciplines, dans les mêmes matières. Et les femmes sont très déficitaires. Il y en a très peu dans les filières technologiques. Scientifique aussi, mais surtout technologique, tout ce qui est construction, conception de machines-outils, informatique aussi. Bon, ça dépend des branches. Il paraît que même en agronomie, ça baisse. Elles avaient presque atteint la parité, et puis là, ça...
Il y a qu'en médecine, et encore, je ne sais pas si vous considérez ça comme étant un service ou
Il y a qu'en
bien
médecine aussi, en pharmacologie, en médecine, où les femmes
énormément de.
sont très nombreuses, mais ailleurs, c'est un peu la disette. Et bon, la grande question, c'est pourquoi? Alors, on a tendance là aussi à tout expliquer par les stéréotypes idéologiques, par le sexisme de ces disciplines, par le biais d'autosélection, les femmes qui s'empêcheraient elles-mêmes d'aller vers ces matières parce qu'elles ne s'estimeraient pas suffisamment
Oui,
compétentes.
on entend très souvent les maths et moi, c'est pas, j'aime
Voilà.
pas.
Alors, moi, j'essaie de relativiser. Je ne dis pas que c'est faux, ça existe aussi, bien sûr, ces facteurs jouent, mais j'essaie de les relativiser un peu parce que c'était le cas aussi pour la médecine. C'était le cas aussi pour le droit au XIXe siècle. Je peux vous dire que les juges n'étaient pas des femmes. Hein. Dans le monde d'avant le XXe siècle, il n'y avait pas de juges femmes.
Journaliste aussi.
Il n'y avait pas de femmes médecins non plus. Les femmes, elles avaient à peine le droit d'être sages-femmes au XIXe siècle. Et pour devenir médecin, ça a été toute une affaire. Donc c'était aussi des endroits où elles ont fait face au sexisme, c'était aussi des endroits où elles faisaient face à un complexe d'auto-sélection, etc. Donc ce n'est pas une réponse. Il y a quelque chose d'autre qui fait que, il y a certaines disciplines qui sont majoritairement choisies par les hommes et d'autres par les femmes. Il y a aussi des questions de préférence sexuée qui sont liées à un fonctionnement hormonal, à la structure du cerveau. C'est des choses qui sont étudiées en neuropsychologie aujourd'hui et qui me semblent faire partie des facteurs qui jouent. Ce n'est pas les uniques facteurs, ce n'est pas la biologie qui détermine ce que vous allez faire comme métier, mais ça fait partie des choses qui jouent. N'empêche que ça joue, mais ça ne détermine pas. Donc les femmes peuvent être plus nombreuses à s'engager dans ces métiers-là. À mon avis, ce serait très important pour elles de le faire, même si c'est difficile et que ce n'est pas forcément ce à quoi elles sont naturellement portées.
Et là, j'ai un petit mot pour ma nièce qui s'appelle Lucia, qui vient de rentrer dans une école d'ingénieur et qui, quand elle a été prise, se disait quand même, oh là là, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû faire autre chose? Bah écoute, en tout cas, Vera te dit que tu as fait le bon choix et je le pense aussi.
Et en plus, elle a tous les garçons pour elle.
En plus, ça, il ne faut pas le dire à la maman, ça. Pas tout de suite, en tout cas. Ok, on va parler de la deuxième partie, même s'il ne reste pas énormément de temps, mais. Alors, la deuxième partie, j'aimerais bien qu'on parle un peu de couple et d'amour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je précise que ce n'est pas un sujet dont vous parlez clairement dans votre livre. Mais bon, j'aimerais bien quand même qu'on tente. Moi, j'ai une première question et on peut partir de. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais depuis que je vous écoute, moi, je me pose une question. Vous qui avez trois enfants, qui avez fait de grandes études, vous écrivez des bouquins, je pense que vous travaillez clairement beaucoup. Vous me paraissez comme ça extrêmement heureuse, épanouie, et peut-être que je me trompe, mais si c'est le cas, vous ne me le direz pas maintenant. Moi, la question que j'ai, c'est comment vous faites pour jongler avec tout ça? Est-ce que. Alors là, on.
C'est très dur, c'est très dur. Il n'y a pas de réponse, y a pas de réponse simple à cette question. C'est très difficile d'avoir un travail, surtout un travail prenant, d'avoir des enfants en même temps et en plus de faire une autre activité d'écriture autre. C'est évident, je dors très peu. Je dors très peu, j'ai une grande capacité de travail aussi. Je ne suis peut-être pas un exemple statistique, j'arrive à dormir très peu et à ne pas être malade, par exemple. Donc, ça aide. Mais je n'ai
Ça
pas de
demande
recette
beaucoup de
miracle.
discipline, je suppose.
Oui, beaucoup d'autodiscipline. Mais il n'y a pas de recette miracle. Après, nous avons la chance, justement, aujourd'hui, surtout dans des milieux des classes moyennes cultivées, on va dire, dont je fais partie, On a la chance justement d'avoir des stéréotypes qui changent, des pratiques beaucoup plus partagées à l'intérieur des familles. Ce ne sont plus uniquement des femmes qui s'occupent des tâches ménagères, même si ces tâches sont
Vous êtes en
extrêmement
couple?
rigides. Oui, bien sûr. Oui. Enfin, non, pas bien sûr, mais oui, je suis en couple, je suis mariée depuis 21 ans. Donc, je peux vous servir
Vous avez, je vais
des
poser
années.
encore une question indiscrète, hein, je suis sur la lancée, vous avez quel âge?
J'ai 45 ans.
Ok. Donc vous êtes marié jeune.
Je me suis mariée jeune, tout à fait. Je suis mariée, j'ai trois filles, dont la première a 17 ans, une de 9 et une de 4.
Je peux
Donc,
vous
j'ai tous les
demander
âges.
qu'est-ce qu'elle étudie, votre fille? Vous n'êtes pas du tout obligé de répondre,
Ma
hein.
grande fille va étudier le chinois.
D'accord, ok. Intéressant.
Donc, elle n'est pas dans les sciences. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est là-dessus que je conclus le livre et je le commence par une exergue à toutes les femmes de ma famille qui, elles, étaient toutes scientifiques. Je viens d'une famille de scientifiques où toutes les femmes ont fait des sciences ou des métiers techniques, sauf moi. Mes grands-mères, ma mère, mes tantes, mes deux sœurs. Je viens moi-même d'une famille de trois filles. Sauf
Est-ce
moi.
que
Moi, j'ai
je
pris
me
la.
permets de, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais est-ce que c'est pas lié au statut de l'Union soviétique à l'époque? Est-ce qu'ils poussaient pas les femmes à faire des études scientifiques?
Oui, il y avait un peu plus de femmes qui s'engageaient dans des études techniques et scientifiques probablement. Et je pense que ça jouait, oui. Surtout dans les milieux de l'intelligentsia qui parfois tendaient à avoir dans les sciences une espèce de havre de paix éloigné de la politique. Parce que les sciences, c'était quelque chose qui était moins facilement accessible à l'idéologie que les matières littéraires ou bon, philosophie, etc. Tout ça, c'était vraiment très normé. Alors que les sciences, bah, c'était un peu plus autonome, on était plus libre. Donc, je pense que c'était un facteur qui jouait, qui joue peut-être aujourd'hui dans d'autres pays. À mon avis, dans les
En
pays
Iran.
en Iran, en Arabie
Vous en
Saoudite.
parlez d'ailleurs, les ingénieurs en nucléaire
Exactement.
qui vont dans ces filières pour justement s'émanciper et.
Absolument, pour s'émanciper, parce que ça donne une vraie compétence qui n'est pas falsifiable, qui n'est pas, on ne peut pas l'imputer, et donc probablement ça donne un statut plus sûr, plus certain que des, bon, faire des études traditionnellement féminines.
Super intéressant. Alors, je vais prendre un peu de hauteur, on va essayer. On l'a vu, hein, et on le constate tous les jours, le statut social, économique, professionnel et politique des femmes françaises a énormément évolué au cours des dernières décennies, grâce principalement à la révolution industrielle, comme vous l'avez dit, mais aussi grâce au mouvement féministe. Quid du statut sentimental? En tout cas, on peut observer quelques différents points. Le premier, c'est que peu importe la tranche d'âge, les femmes sont en moyenne 10% moins nombreuses à être en couple comparé à 90. Les femmes se mettent en couple globalement plus tard, de 5 ans je crois, de plus en plus de femmes n'ont pas d'enfants, et quand elles en ont moins. On voit d'ailleurs que le taux de natalité de 2022 est le plus bas jamais enregistré en France depuis 30 ans. Pourtant, de nombreuses études et de nombreux sociologues, dont Pascal Lardelier que j'ai reçu ici il n'y a pas longtemps, avancent que le couple et le foyer, donc le fait d'avoir des enfants, reste l'horizon ultime pour une très large majorité des Français et des Françaises. Question ouverte, complexe. Quel rôle joue ou a joué le féminisme et le néo-féminisme là-dedans selon vous? Et surtout, comment voyez-vous l'avenir à ce sujet, sachant que à terme, un véritable problème démographique peut se poser, comme au Japon actuellement? Et je termine avec ça, le problème démographique rentre en collusion quand même avec le sujet climatique. J'ai d'ailleurs invité Jean Covici dans ce podcast qui m'a répondu et va peut-être venir, donc je lui reposerai la question. Et alors, bon, c'est très complexe peut-être ce que je dis.
Oui, c'est complexe, c'est très vaste, mais c'est pas grave. Je vous répondrai rapidement dans la mesure de mes modestes moyens. Je
Modeste,
pense
je sais pas.
que le féminisme et plus généralement le changement du statut des femmes a bien sûr joué un rôle dans les changements que vous évoquez. Là, je me permettrai de me référer à Emmanuelle Todd et à son livre qui s'appelle Où en sont-elles? Une esquisse de l'histoire des femmes. Dans lequel il analyse justement tous ces indicateurs, notamment le niveau de diplôme aujourd'hui dans les couples, le taux d'emploi chez les femmes, le taux de divorce, etc. Et il a
Et
des mots qui.
je me permets de
Oui?
rebondir rapidement. Je crois que c'est même lui d'ailleurs qui a dit, alors je vais peut-être dire une bêtise encore, mais que finalement la pilule n'était pas un si grand cadeau, en tout cas une si grande avancée féministe pour les femmes.
Oui, alors ce que dit Emmanuel Todd, moi je trouve qu'il a démontré juste, il dit les femmes ont acquis de l'autonomie, elles ont acquis l'égalité des droits, elles ont acquis dans un grand nombre de domaines des opportunités, des possibilités à peu près égales à celles des hommes, même si des inégalités subsistent. Et ce qui s'est passé, c'est que l'égalité, c'est un idéal vers lequel on tend, un idéal désirable, pour lequel on s'est battu. Qu'on chérit, etc. Mais cette émancipation, cette autonomie, elle a aussi, entre guillemets, des mauvais côtés. Alors lui, il dit que les femmes n'ont pas gagné le paradis, elles ont gagné une difficile liberté. Parce que ce qui se passe, c'est que quand elles deviennent autonomes, égales, à peu près au même niveau que les hommes, même si, bon, voilà, on peut en discuter, eh bien, ce qui se passe, c'est que elles deviennent soumises aux mêmes contraintes que les hommes. Et notamment, ça, c'est patent dans le monde du travail. C'est-à-dire que quand la femme sort de l'espace domestique, elle va où? Eh bien, elle va travailler au bureau ou à l'usine ou au supermarché. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se promener et faire la fête. Elle va être soumise aux mêmes contraintes économiques, aux mêmes contraintes d'horaire, aux mêmes contraintes de hiérarchie, de patron, d'extraction, d'exploitation, en fait, que les hommes. Donc ça, c'est la première chose. Hein, ouais. On ne peut pas dire en fait que ontologiquement les femmes soient devenues libres. Parfois, on me l'a opposé. Il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Les femmes se sont émancipées. Quelle est l'émancipation dans le fait d'aller travailler, bosser 10 heures par jour dans un bureau? Pourquoi ce serait pas mieux dans ce cas-là de s'occuper de ses enfants, dans sa famille, etc. C'est des choses qui se discutent. C'est vrai qu'on gagne une certaine autonomie, mais on en perd une autre, peut-être. On gagne une nouvelle oppression, une nouvelle aliénation. Probablement. Donc une difficile liberté. Et puis en plus, le problème qui se surajoute pour les femmes, c'est que elles sont désormais placées devant les mêmes choix que les hommes. Dès qu'on sort des systèmes rigides qui vous imposent des rôles, la femme fera ceci, l'homme fera cela, et vous vous marierez à peu près à tel âge, et vous ferez à peu près tel nombre d'enfants, et parce que c'est comme ça que c'est bien. Et il y a quelqu'un qui chante une chanson, et il y a l'orgue qui joue, et puis on vous dessine des trucs sur la tête, et puis vous êtes content parce qu'on vous a dessiné un chemin, et puis tout le monde a fait comme ça, et vos parents aussi, et les autres autour aussi. Tout ça, ça s'auto-valide, on se congratule tous, et on sait qu'on vit bien, on a une vie bonne. Bon, après, le problème, c'est quand ça rate. Un espace, quand ça marche pas, bon, ben, on est tout seul, on est confronté, on est exclu, etc. du coup. Mais quand ça marche, c'est très bien. On se sent bien. Les systèmes traditionnels fournissent aux êtres humains une assurance, une espèce de carcan, de matrice chaleureuse qui les rassure, etc., qui leur dit
Alors que
comment
la
vivre.
liberté peut-être vertigineuse,
Alors que
quoi.
la liberté est vertigineuse, la liberté nous expose à ce qu'on appelle en sociologie l'anomie, l'absence de normes. On ne sait pas que choisir. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Et comme le dit Emmanuel Todd, les femmes aujourd'hui, avec leur nouvelle autonomie, avec leur nouvelle émancipation, eh bien, elles doivent choisir, entre autres, entre la carrière professionnelle et la carrière domestique, la carrière amoureuse, la carrière de couple, qui ne sont pas antinomiques. Bien sûr, on peut les concilier, mais ce n'est
Mais qui
pas
sont
évident.
complexes.
Ce n'est pas facile, c'est complexe et parfois, ça impose des choix compliqués. Voilà, donc la liberté augmente, mais les tourments peut-être des choix et des hésitations et voilà, du vertige augmentent aussi.
Et
Et
alors là, pour le coup, il va y avoir énormément de femmes qui ont la trentaine, voire entre 35 et 45 qui ont beaucoup bossé, qui se sont totalement émancipés au niveau économique et qui très souvent, et je le vois parce que elles peuvent rapidement devenir mes clientes, se disent au bout d'un moment, bon, ok, c'est très bien tout ça, mais en fait, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Alors là aussi, il y a des avancées scientifiques qui permettent de repousser l'échéance, on va dire, comme le fait de congeler ses ovocytes, etc. Mais on voit que ça peut être très complexe à gérer quand on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et à ces femmes-là, est-ce que vous aimeriez leur dire quelque chose? Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous verra qui.
alors, dire quelque chose à ces femmes-là, à l'âge où elles sont, où elles se mettent à chercher une vie de couple, je ne sais pas trop. Ce serait une grande responsabilité et je ne sais pas si c'est vraiment mon rôle. Je pourrais peut-être commenter plutôt. C'est-à-dire
Commentez
que,
alors.
oui, c'est un peu j'en parle un petit peu à la fin du livre. Ça fait partie, à mon avis, des choses tragiques. cette situation dans son ensemble. Des choses tragiques, c'est-à-dire qui n'admettent pas d'issue uniquement heureuse. C'est-à-dire que tous les choix qu'on fait dans la vie biographique, aujourd'hui, avec cette nouvelle liberté dont on dispose, ils ont des conséquences. Ces choix ont des conséquences parce qu'ils nous ferment d'autres possibilités. Donc c'est vrai qu'on a tendance, quand on est surtout dans des milieux cultivés, des classes supérieures, à s'engager corps et âme dans les études, dans la carrière, parce que c'est ce à quoi aspirent les êtres humains en général. Ils aspirent à s'auto-réaliser, à agir sur le monde, à faire quelque chose de créatif, de transcendant, etc. Donc ce sont des choses qui leur semblent très importantes. Et on a tendance à faire passer les choses plus immanentes, la reproduction de soi, de l'espèce, tout ça, derrière, les passer au second plan. Et c'est vrai qu'on est rattrapé après par la réalité de l'unicité de la vie. On n'est pas éternel, la vie n'est pas infinie, la fécondité non plus. Donc, comme vous dites, aujourd'hui, on a des solutions techniques pour des solutions scientifiques qui permettent de remédier au problème. Mais comme je le dis dans mon livre, ces solutions sont très étroitement liées à cet état de prospérité et de stabilité que nous connaissons. Donc, ce n'est pas forcément une solution dans le monde de demain. À long terme, ça ne marchera pas forcément. Voilà, une fois qu'on arrive à ce stade dans sa biographie, oui, je comprends que ça puisse laisser démuni, que ça puisse laisser insatisfait et qu'on ait l'impression que quelque chose manque. Ce qu'il faut se dire probablement, c'est que aux gens qui sont de l'autre côté, il manque des choses aussi. Les choses ne sont
Exactement.
jamais univoques. Se
Ouais.
permettre une vie en pleine autonomie, des choix personnels forts, une vie de liberté, y compris amoureuse, etc., ce sont des choses aussi qui peuvent manquer à des gens qui
De
sont en quartier.
profondeur et de. Ce que j'observe, c'est que globalement, une partie des célibataires aujourd'hui sont pris en étau, alors peut-être plus les femmes, mais aussi les hommes, entre des injonctions contradictoires. Donc les injonctions contradictoires, c'est d'un côté un romantisme qu'on a tous encore ancré en nous, pour le meilleur et pour le pire, mais aussi les injonctions de amuse-toi, éclate-toi, ou travaille, ou pense à toi, enfin l'individualisme, quoi. Et cet étau-là, il est particulièrement plus complexe pour les femmes qui ont une date limite en biologiquement. C'est horrible de dire comme ça, mais.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et bien sûr, parce que la fenêtre de tir, elle est assez étroite pour les femmes. C'est pour ça que je le dis, enfin, dans un monde où les enfants meurent, par exemple, il n'y a aucun moyen d'attendre 30 ans, d'attendre 35 ans. On
De
fait
commencer à
forcément des
25 ans
enfants plus,
ou
voilà, on
plus
fait
jeune
forcément
encore.
des enfants plus jeunes, parce que si on commence à 30 ans, à 35 ans, ça peut ne pas marcher. Et dans ce cas-là, voilà, on va pas procréer du tout. Ça arrive d'ailleurs parfois à des femmes, vous l'avez dit vous-même, même aujourd'hui, parce qu'on rate cette fenêtre de possibilités biologiques. Je voulais dire quelque chose et je ne sais plus, ça m'a échappé. Attendez, attendez, je vais retrouver l'idée. Vous avez dit.
Je parlais des injonctions contradictoires, d'un côté le romantisme, de l'autre côté l'individualisme, et que c'était encore plus vrai pour les femmes, pour des raisons biologiques, parce qu'il y a une date limite. Si vous ne retrouvez
Oui,
pas, c'est
c'est
pas
ça.
grave, Vera.
Oui, je ne sais plus. J'avais une idée qui m'était passée par la tête et je ne sais plus laquelle.
Mais c'est pas grave, vous avez des grosses journées, on ne va pas vous en vouloir.
Oui, ça m'est sorti de la tête. Bon, tant pis.
Bah, de toute façon, on arrive à la fin. Alors, peut-être, dernière question, toujours pas une question simple, mais si demain votre fille elle avait cette question en elle à 25 ans, maman, j'ai le choix entre avoir peut-être une grande carrière et devoir mettre de côté un peu ma vie familiale et sentimentale de côté au risque de ne pas avoir d'enfant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que déjà vous lui donnerez un conseil ou bien oubliez.
Alors avant de répondre, en fait, ça m'est revenu.
Ok, super.
Ça m'est revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les injonctions contradictoires qu'on donne aux femmes, il y a cette idée que... Zut, ça m'est ressorti de la tête. Attendez. Attendez, je fais une
J'espère que
catastrophe.
c'est pas
Qu'est-ce
la
que
question
c'était?
sur votre fille qui vous a
Non, c'est pas
dérangé.
la question sur ma fille du tout, c'est parce que ça continuait à tourner dans ma tête. C'était l'injonction à, parce que vous avez
Alors,
parlé de l'injonction, le romantisme, on a l'injonction d'être amoureux.
L'injonction, en effet, du romantisme, donc d'être amoureux rapidement, d'avoir des enfants rapidement, etc. Et l'autre côté, l'injonction de la liberté. Amuse-toi, éclate-toi, travaille, pense à toi, quoi. L'injonction libéraliste.
Ouais, c'est ça. Non, je sais plus. Enfin, bref, excusez-moi. Oui, donc si ma fille me posait la question, oui, j'ai peur de. C'est une grave question, hein. Est-ce que je lui donnerais
Ouais.
un conseil? Oui, je discuterai avec elle. J'essaierai de comprendre quelles sont ses motivations, qui est la personne, quelle est la situation exacte, etc. Parce qu'on peut pas, c'est pas une question à laquelle on peut répondre précisément. Mais ce qui est certain, c'est que les gens sont remplis probablement d'idées un peu préconçues, justement, sur la vie en couple, sur la vie de famille. Ça, c'est quelque chose que les gens ne mesurent pas toujours. On a tous cette idée qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'amour doit être romantique, l'amour doit être parfait, l'amour doit être toujours beau, on doit absolument choisir. Ah ben ça y est, voilà, ça m'est revenu. Et
Alors, on
les
va en
femmes.
profiter alors.
Oui, non, non, on en profite, je le dis tout de suite. Les femmes qui sont elles-mêmes aujourd'hui beaucoup plus émancipées, beaucoup plus au courant de toutes les théories féministes, des revendications des autres femmes aujourd'hui, etc., les femmes ont tendance à être très exigeantes. Et elles ont raison. Exigeantes aussi par rapport à elles-mêmes. Elles ne supportent plus qu'on ne le respecte pas, elles ne supportent plus d'être dénigrées ou d'être dévalorisées, etc. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais ça a aussi des effets de bord. Quand ça se transforme en une quête impossible de la perfection de la part de l'homme, qui doit être totalement féministe, plus féministe que les féministes elles-mêmes, ne jamais faillir dans cet idéal d'égalité, etc., mais à la fois qui doit quand même être un homme, et donc il y a aussi une recherche de romantisme qui implique une espèce de rôle sexué. Donc elle demande beaucoup aux hommes, souvent, des injonctions un peu contradictoires aussi de leur part, non seulement, non, pas seulement à leur égard, mais aussi de leur part vis-à-vis de leur partenaire. Et ça, à mon avis, ça rend un petit peu compliqué le fonctionnement des couples, surtout passé un certain âge où les gens ont vécu, etc., ils savent très bien ce qu'ils veulent.
Et
Je pense
alimenté
que c'est
par
une
les
bonne idée.
applications de rencontres où globalement les femmes ont beaucoup plus de choix que les hommes, et où il a été prouvé
Exactement.
par pas mal de scientifiques, dont Barry Schwartz, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, Paradox of Choice, Why More Is
Oui.
Less, que je cite très souvent, qui explique que justement, dans nos sociétés qui sont devenues désormais ultra-libérales, où on a un choix infini pour quasiment tout, même pour le monde de l'amour, cette liberté de choix crée de la paralysie, de l'anxiété, et finalement augmente l'insatisfaction. Donc
Oui, tout à fait.
finalement, on s'en ramène toujours aux stoïciens. L'autodiscipline et la discipline sont le chemin vers le bonheur. En tout cas,
Oui,
c'est
pour
ma...
moi, l'auto-limitation, c'est-à-dire
Et
se dire que la perfection n'est pas possible parce
qu'elle
que
n'existe
voilà,
pas.
elle n'existe pas exactement. Et la multiplication, par exemple, des séparations, des divorces, etc., très précoces, bah, c'est aussi parce que les gens ne supportent pas un idéal brisé, ils s'attendent à beaucoup de choses et finalement, ce n'est pas du tout ça. Donc, ils se séparent. Ça a plein d'avantages parce qu'il faut pouvoir se séparer, bien sûr, quand ça ne marche pas. Mais
Bien
ça a aussi
sûr.
des inconvénients d'une
On
espèce d'anomie
abandonne plus
généralisée.
facilement, quoi.
Voilà, exactement. On abandonne plus facilement et on refuse de faire des compromis qui, malheureusement, c'est un peu tragique, mais sont inséparables de la vie en commun, que
Ah
ce soit en
ben.
communauté, dans un collectif, mais aussi dans une famille, même quand il y a de l'amour. Donc oui,
Qu'on
l'humilité,
appelle ce qu'on
oui.
appelle désormais la. Il faudrait tendre vers une forme de romantisme co-constructif, c'est-à-dire accepter que tout n'est pas forcément super fluide, qu'il peut y avoir des moments compliqués à gérer, qu'il faut en discuter, qu'il ne faut pas se barrer dès que l'idéal n'est plus atteint ou que...
Exactement, exactement. Voilà. Avant, c'était le rôle de l'idéologie qui remplissait très bien cette fonction. Enfin, l'idéologie disait il faut, et de toute façon, le divorce n'est pas possible, donc la question ne se
Oui, la
posait pas.
société nous
Les gens disaient
imposait
que c'était pas
un... quelque chose,
possible.
aujourd'hui c'est à nous de nous l'imposer nous-mêmes. Ce qui
Aujourd'hui,
fait
c'est à
d'ailleurs que
nous
des...
de nous imposer nous-mêmes, mais intelligemment, évidemment, dans des limites. Il ne faut pas s'imposer n'importe quoi.
Exactement.
Mais c'est pas facile. C'est parce que c'est maintenant à nous de définir tous les contours, toutes les
De
limites,
notre
qu'est-ce qu'on
vie,
doit
de
accepter,
tout.
qu'est-ce qu'on ne va pas accepter. Donc c'est effectivement une espèce d'exercice acrobatique en permanence.
Bah écoutez, en tout cas, j'ai adoré discuter avec vous, Vera, je vous le dis hyper honnêtement. On va arriver à la fin, là, on va conclure. Je tiens juste à dire une chose, parce que moi, quand j'avais parlé de votre newsletter, j'avais reçu quelques. Enfin, quand j'avais parlé de vous dans ma newsletter, j'avais résumé votre livre, en fait. Et j'avais reçu quelques retours de femmes aussi, plus de femmes que je pense qui étaient apparentés à des mouvements néo-féministes et qui n'aimaient pas votre discours. Ils le trouvaient très pessimiste. Et moi, je trouve que c'est exactement l'inverse. Je trouve que, alors oui, il peut avoir un côté pessimiste, mais que finalement, si on le comprend bien, bah, il est finalement très optimiste et très, il éclaire énormément, je trouve. Et je pense que moi, je vais clairement le faire écouter à toutes mes nièces. J'en ai beaucoup, j'en ai six, cinq. Et parce que je pense que votre discours devrait vraiment être plus entendu. Alors, vous avez fait beaucoup de grands médias quand même, mais j'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont prendre un peu votre relais, ou vous écrirez un tome 2, mais ça fait du bien d'entendre ça, je trouve. Et surtout, ça permet aussi de... C'est un autre son de cloche, en fait, et qui est vachement
Je pense que
détaillé.
c'est une manière de voir les choses qui évite l'excès de enfin, comment dire, l'excès de cette conflictualité qui me semble prévaloir aujourd'hui dans les revendications des femmes.
Et
Il
qui a
faut
un
de la
impact énorme sur
revendication.
les hommes, on n'en a pas parlé, mais aussi sur les hommes.
Voilà, mais il faut aussi reconnaître qu'un certain nombre de choses étaient dues à des facteurs matériels, ce qui fait que on peut tous ensemble, collectivement, les hommes et les femmes, essayer de gérer ces facteurs matériels au mieux pour que notre humanité ne soit pas confrontée à la nécessité de s'organiser de cette manière inégalitaire et qu'on puisse aller vers des solutions plus égalitaires. Donc oui, c'est un livre finalement qui place de la confiance dans l'humain, dans notre capacité à
Exactement.
agir sur les choses. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un livre optimiste, on va dire,
Moi, je le dis en
dans
tout cas.
l'action. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup, Vera.
Et merci
Si
à vous.
vous voulez acheter le livre, donc il est aux éditions Fayard. Je répète le titre, Féminicène. Et le sous-titre, c'est les vraies raisons de l'émancipation des femmes, les vrais dangers qui la menacent. Merci, Vera, encore une fois, et puis à la prochaine.
Merci Antoine.